Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Du Jobelin à l'argot. Nous l'évoquions récemment, la curiosité provoquée par la publication de l'histoire des brigands, chauffeurs et assassins d'orgères repose aussi sur le dictionnaire d'argot, ou langage des voleurs, placé à la fin de l'ouvrage par son auteur P. Leclerc. L'usage de la langue argotique dans les milieux parallèles n'était pas nouveau. Dans l'édition de 1694, la première, du dictionnaire de l'Académie française, on peut lire à l'entrée « argot », on dit plus communément « ergo », pointe dure, qui vient au derrière du pied de quelques animaux. Les argots d'un coq, d'un chien, il s'est rompu l'argot en courant. Ce qui ne nous apprend rien, sur le moment. Mais il suffit de lire le second exemple. On dit, figuratif, « se lever sur ses argots », »,« monter sur ses argots » pour dire « s'élever d'action et de parole avec chaleur et audace. Parler l'argot, c'est donc parler avec audace. En 1762, ce même dictionnaire, dans sa quatrième édition, est plus explicite. Certains langages des gueux et des filous qui n'est intelligible qu'entre eux. Cette fois, l'argot était officialisé. Avant l'argot, on parlait d'un autre jargon. Le compte-rendu du procès des coquillards en 1455 fournit le premier lexique argotique avec 70 noms de jargon jobelin. Un certain Olivier Chéreau, mercier de son état et membre de la Compagnie du Saint-Sacrement, donna en 1628 à Oudot à Troyes le jargon de l'argot réformé. Cet ouvrage sera régulièrement réédité jusqu'en 1849. Il est à la source de plusieurs ouvrages du XIXe siècle, notamment la description de la cour des miracles d'Henri Sauval, qui sera reprise par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Charles Nodier trouva dans le Chéreau l'idée d'une société criminelle organisée qui réformait régulièrement son langage pour le garder secret. Dans son ouvrage « Les sources de l'argot », le lexicographe Lazare Saint-Néant indique qu'au XVIIIe siècle, le procès de Cartouche alimenta l'intérêt pour l'argot dont on publia des mots jusqu'alors inconnus. Des comédiens français rendirent visite au brigand dans sa cellule afin de lui soutirer un vocabulaire et des chansons qui alimentèrent une comédie intitulée « Cartouche ou les voleurs » jouée en octobre 1721. Si vous souhaitez en savoir plus, permettez-moi de vous conseiller l'étude de Michel Hellenberger « Cartouche, histoire d'un brigand, un brigand devant l'histoire ». Certes, il y a eu beaucoup de brigands dans l'histoire de France. Pourquoi celui-ci a-t-il atteint une telle renommée posthume, se demande Michel Hellenberger. Il semblerait qu'il était davantage le bouc émissaire qui ait permis à la Société de la Régence, malade du financier Law, notamment de ramener tous les projecteurs sur lui, laissant dans l'ombre les mécontentements provoqués par les politiques. Cartouche a été l'ombre du régent, celui qui agissait d'une manière archaïque, alors que le duc d'Orléans ouvrait la Société de Lumière. Lorédon Larchet, auteur des excentricités du langage paru pour la première fois en 1865, assurait qu'une bonne part de notre ancien vocabulaire dérivait déjà de l'argot. C'est la raison pour laquelle il assurait qu'il devait être beaucoup pardonné aux licences de langage populaire en insistant sur la souffrance et l'amertume profondément ironiques que décèlent bon nombre de ces termes. Le décryptage des mots excentriques, pour reprendre la formule de Larchet, s'est effectué durant 4 siècles. Il reste que selon les linguistes du XXe siècle, c'est-à-dire Saint-Néant, Albert Dauzat et Marcel Cohen, le seul langage authentique crypté des voleurs et des criminels est celui de Vidocq. Comme l'on sait que le chef de la police de la Sûreté avait puisé son vocabulaire dans celui des chauffeurs, qui eux-mêmes s'étaient inspirés de cartouches, nous pouvons imaginer que l'argot, langue parallèle par excellence, a vécu, comme toutes les autres, avec des transformations, des allitérations, des emprunts et des ajouts. Ce que soulignait Balzac. Disons-le, peut-être, à l'étonnement de beaucoup de gens, il n'est pas de langue plus énergique, plus colorée que celle de ce monde. L'argot va toujours d'ailleurs, il suit les civilisations, il la talonne,
il s'enrichit d'expressions nouvelles à chaque nouvelle invention. En lisant la nomenclature des termes jadis propres aux conversations du brigandage et de la filoterie, on devine d'une part qu'un certain nombre de ces termes ne subsisteront pas longtemps, et d'autre part, on s'aperçoit que beaucoup ont pris droit de citer dans l'usage public. Quel Parisien, même rangé, même prude, ignore absolument que l'eau c'est l'eau de vie. La bouffarde, une pipe. La dèche, les ennuis de la misère. Que balle veut dire tête. Curieux, juge. Gazon, perruque, etc. Où n'entend-on pas ces mots-là? Les gros railleurs ont commencé par s'en servir pour se donner un air de finesse et de liberté, mais bientôt ces mots narquois seront comme les doublures naturelles des termes correspondants et peut-être prévendront-ils. Noté en 1862 Auguste Morel. Le langage des voleurs de la bande d'Orgères nous semble pittoresque même aujourd'hui, à moins d'être particulièrement familier de l'argot des voleurs. Nous reconnaissons « manger le morceau » pour dénoncer, mais sourions à « jouer la boule » pour être guillotiné. Le terme « cogne » pour désigner les gendarmes ne nous surprend pas, au contraire de « tapin » gris-bleu. Le greffier « chat » est entré dans le langage quasi courant, comme les « robins » pour les juges, ainsi que la « turne » pour la maison qui est aussi devenue une pièce. La camelote pour marchandises est certes populaire, mais sans surprise, comme les pognes pour les mains. Le pézouille pour les paysans est toujours aussi méprisant. Reliquet n'a pas besoin de traduction, ni un rond pour un sol à l'époque pour de la monnaie d'aujourd'hui. Le voleur était un grinche, un poisse ou un charle. Le village, qui était un paquelin, est devenu un patelin. Et comment les voleurs nommaient-ils les vaches? Des corbettes. Ce dernier terme n'est pas passé dans le langage picoré par la bourgeoisie grâce aux ouvrages qui ont commencé à fleurir à la fin des années 1820, notamment au moment de la publication, en 1828, rappelons-le, des mémoires de Vidocq. Il est significatif de trouver dans la bibliographie abondante de l'argot un dictionnaire d'argot ou guide des gens du monde pour se les tenir en garde et lexique des mots voyous par un monsieur comme il faut. Deux ouvrages publiés à Paris la même année en 1827. Dans la bibliographie argotique des voleurs, nous avons relevé entre 1827 et 1837 une quinzaine d'ouvrages sur le sujet. Ils étaient une dizaine entre 1840 et 1850, et à peu près le même nombre jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et nous sommes loin du compte. La curiosité pour ce langage caché n'a jamais perdu de son sel. Vidocq l'avait compris. La langue argotique semble aujourd'hui être arrivée à son apogée, écrivait-il en 1837. Elle n'est plus seulement celle des tavernes et des mauvais lieux, elle est aussi celle des théâtres. Encore quelques pas, et l'entrée des salons lui sera permise.